Pileta, t'attends,
mais tu pars.
Pileta, souffle,
cours.
Pileta, souffle,
cours.
Puis tu craches tes poumons et tu marches à tâtons.
Puis le choix.
Pileta Remix, c'est le nom d'un spectacle qu'on a pu voir et surtout entendre au Métaphone à Oigny le 15 octobre dernier. Avant d'en reparler, on écoute quelques réactions recueillies sur place auprès du public juste après le spectacle.
Il y a quelqu'un,
un écho,
un hibou.
C'était bien, moi j'ai bien aimé.
Alors qu'est-ce que vous avez préféré vous dans le spectacle?
Quand elle courait, on dirait qu'elle courait au ralenti.
Et toi, qu'est-ce que tu as préféré?
Moi je préférais quand ça clignotait, on voyait ses mouvements.
Quand elle est tombée, elle a fait comme ça.
Moi j'aimais bien quand elle courait, j'aimais tout en fait.
Vous avez déjà regardé comme ça un spectacle avec un casque?
Non. Non,
moi jamais.
Moi jamais, c'était trop bien.
Qu'est-ce que ça fait alors?
Ça fait bizarre.
Pourquoi ça fait bizarre?
Parce que c'est la première fois.
Ouais. Et on a l'impression qu'ils ont juste derrière l'oreille, c'est ça?
Ouais.
Oui.
On dirait qu'ils font des... Ils tapotent dans notre oreille quand ils font les... Quand ils parlent, on dirait qu'ils tapotent.
Vous l'aurez peut-être compris, Pileta Remix, c'est un spectacle un peu particulier, c'est une fiction radiophonique interprétée en direct par le collectif Wow, devant un public casqué. S'y mélange narration, chanson, musique et bruitage. On écoute Florent Barra, l'auteur et l'un des interprètes de Pileta Remix. Il nous parle des débuts du collectif. Alors, théâtre ou radio ?
À la base, il y a des gens qui ont fait une formation de comédien, comédienne, plutôt théâtre du coup. Mais il y a des gens qui viennent de tout autre monde. Il y a des musiciens aussi. Moi, je suis éducateur spécialisé de formation. Je n'ai pas fait de théâtre et mais voilà. J'ai commencé à faire de la radio, enfin à créer des trucs pour la radio il y a 6 ans, un truc comme ça. Mais oui, sinon, on est vraiment d'origine, enfin de milieux très différents. Il y a un preneur de son, un ingé son. Il y a des ingé sons aussi, c'est vrai, aussi, qui ne bossaient pas forcément pour la radio, mais plutôt pour le ciné. Par contre, ciné-docu, il y a un prof de langage radiophonique et média qui est aussi musicien. Mais voilà, plusieurs univers, plusieurs casquettes, mais personne n'était ancré soit que dans le théâtre, soit que dans la radio. C'est vraiment des univers qui se sont croisés.
Alors justement, où est-ce que vous vous êtes rencontrés, dans quel contexte et où?
Alors, le collectif, à la base, il a été formé par 3 personnes qui se sont rencontrées à Montpellier et qui ont migré à Bruxelles un peu par hasard ensemble au même moment. Et du coup, quand on s'est retrouvé à Bruxelles, on s'est dit « Ah, c'est cool, on va enfin créer ce collectif qu'on voulait créer depuis longtemps. » Et ensuite, les autres, c'est que des copains, en fait. Ça a été des rencontres d'amis, et puis on ne savait pas trop ce qu'on allait faire comme forme artistique, je veux dire, comme forme de création. Et puis, on a rencontré des gens qui faisaient un peu du son, et puis on s'est dit « Ah ouais, tiens, ça peut être cool de faire de la radio, ou de la fiction radio. » Et puis, de fil en aiguille, finalement, quand on a commencé à fréquenter aussi le milieu du son et de la radio, on a rencontré des gens qui en faisaient. Et puis, on a expérimenté des choses aussi, et puis on s'est amélioré, enfin, on a découvert des outils qu'on ne connaissait pas, radiophoniques et sonores. Mais voilà, pour une partie, du coup, voilà, on était à Montpellier. On a migré à Bruxelles, on a formé le collectif à Bruxelles et là on a ouvert à tous nos amis qui avaient des potentielles capacités de création et de raconter des histoires, en tout cas.
C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Les adultes, c'est vraiment des trouillards.
Ça, c'est Pileta Louise. Elle est grande pour son âge, elle a 9 ans.
Et demi.
Et demi. Elle vit dans une petite maison, au milieu de la campagne, avec son père et sa grand-mère, Anna, qui, depuis quelques jours, n'est pas très en forme.
Et ça m'inquiète.
Tout à l'heure, en sortant de sa chambre en pleine nuit...
Pour aller faire pipi.
Pileta a entendu dans la cuisine son père en grande conversation avec un docteur.
Alors, pour savoir ce qu'il disait, j'ai collé mon oreille à la porte.
Alors, docteur, c'est grave?
Oh, écoutez, Anna est fatiguée.
Anna est très fatiguée.
Mais elle va pas se faire le sang.
La grand-mère a du mauvais sang. Il connaît une potion fantastique, seul espoir de la sauver. Une infusion de fleurs de bibiscus qu'on trouve sans doute sur la colline de Billypolis, à la lisière de la forêt.
Alors, on va parler d'abord de la forme, avant de parler du fond de ce spectacle Piletta Remix, hein, parce que c'est ce qui frappe au premier abord, c'est un dispositif radiophonique, et en même temps un mélange de théâtre, il y a de la musique, il y a du bruitage, il y a tout ça qui se confronte, et aussi parler un petit peu des casques, du public casqué.
Ok, oui, bah alors effectivement c'est un mélange de... Bon, c'est tous les outils, pour nous c'est... Tous les outils, en tout cas, c'est les outils de la création radiophonique, de la musique, du bruitage, des comédiens et comédiennes, voilà, des ambiances, des choses préenregistrées aussi, parce qu'on utilise aussi ça dans la création radio, évidemment. Mais effectivement, sur des scènes, sur scène, du coup, parfois dans des théâtres, mais parfois dans des salles de sport aussi, enfin pas que dans... On a un gros débat entre nous, entre est-ce que c'est du théâtre ou pas du théâtre, enfin, ça a été vraiment des petits points comme ça de frottement. Alors c'est du spectacle vivant, c'est clair. Après je pense que tout ce qui se fait sur une scène dans un théâtre n'est pas du théâtre, enfin un contorsionniste qui vient faire un numéro dans un théâtre, personne dit il fait du théâtre, tout le monde dit il fait du contorsionnisme. Mais du coup voilà, c'est vrai que par contre c'est clair que c'est les outils de la radio, de la création radiophonique mis sur une scène de théâtre que viennent augmenter les outils du spectacle vivant, effectivement. Il y a un peu de lumière. Du coup, on voit les comédiens et les comédiennes. Du coup, leur langage corporel ajoute, en tout cas, aussi à la perception sonore. Et voilà, ouais, il y a du bruitage. On fait du bruitage, on fait de la musique. On essaie de faire un maximum de choses en live. Il y a quelque chose pré-enregistré. Parce qu'on trouve que c'est important vraiment de montrer le panel et que ce n'est pas de la triche, c'est que ça existe, on fait comme ça aussi. Et le public est donc au casque pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une fois, on a vu un spectacle qui se faisait comme ça, on s'est dit « putain, c'est trop cool en fait, on devrait essayer de faire ça ». Et quand on a trouvé des casques qu'on nous a prêtés, on a essayé, on s'est dit « ah oui, ok, ça change tout, on ne peut plus revenir en façade comme on a pu le faire ». Et alors le casque permet déjà à chacun, je pense, d'être dans une écoute très personnelle et très intime. Ça crée une sorte d'intimité collective comme ça, parce que même si chacun est dans sa bulle, les bulles se frottent, se croisent, enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée quand même en commun. On n'isole pas les gens, on ne les coupe pas les uns des autres. Et le casque permet à nous aussi déjà une précision au niveau de certaines intentions sonores, que ce soit de spatialisation ou de traitement qui ont besoin de finesse et de détails. Et ça permet aussi aux interprètes d'aller chuchoter à l'oreille de chacune et chacun des spectatrices, spectateurs, ce qui est, de manière générale, d'habitude impossible. Là, on peut vraiment aller dans de la douceur, dans aller parler, dans se poser comme ça. Et voilà, je pense que c'était les trois grands avantages du casque sont ceux-là, quoi.
Je vais y aller, moi, chercher cette fleur. Je veux pas te laisser mourir, je te promets. T'es bien trop jeune.
Alors Piletta ouvre la grande armoire au fond de la pièce.
Okay.
En sort trois grands draps blancs qu'elle noue ensemble pour en faire une longue corde.
Ouais.
Puis elle ouvre la fenêtre, lance les draps et se jette dans le vide.
Non, c'est pas du tout une bonne idée.
On a été rejoint par un autre membre du collectif. Est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Thomas Forst, c'est mon nom.
Comment tu es venu toi au collectif ? Par la musique, par le théâtre ?
Par la radio. Donc je botte en touche là sur le coup, par la radio principalement, où j'avais un projet plus humoristique mais qui était aussi fait en live. Et je dois dire aussi que c'était en live par paresse. Je tiens à préciser comme ce petit point là, parce que je n'aime pas trop le montage et que la technologie actuelle permet de pouvoir faire en fait tout en live et de garder en fait la surprise de l'erreur et de s'adapter et ce genre de choses. Et donc... faisant ces choses déjà en live, eux avaient un projet. Et la partie écrite par Sébastien Schmitt, qui a écrit le son et la musique du spectacle, il ne pouvait pas être là tout le temps, donc je suis venu pour le remplacer et m'amuser avec les copains.
On parle aussi du spectacle et du fond du spectacle. C'est une sorte de conte. Hein. On suit un personnage qui est une enfant de 9 ans et demi. On la suit dans ses peurs, dans son imaginaire aussi.
Ouais, complètement. C'est vrai que c'est un peu une structure de conte initiatique, hein, assez classique finalement, avec un personnage qui a une quête et cette quête l'amène en l'occurrence à traverser des épreuves qui sont censées la faire, sinon grandir, au moins évoluer. Et effectivement, je pense qu'une des épreuves qu'elle traverse, en tout cas, c'est de gérer sa peur, enfin, sinon la gérer, la dépasser en tout cas, ou la comprendre et la transcender en quelque chose de positif. Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à faire passer chez le public, c'est que c'est qu'ils puissent s'identifier à la peur de ce personnage pour avoir eux-mêmes une réflexion sur leur propre peur, peut-être, je ne sais pas.
Sur le chemin, on va dire que d'autres thèmes sont aussi exploités. Par exemple, il n'y a pas que la peur ou le passage à l'âge adulte, il y a aussi l'argent, le rapport aussi, peut-être à sa famille, ce genre de choses. Et évidemment, simplement le rapport à l'imaginaire, quoi. Une des questions qu'on préfère poser aux enfants à la fin du spectacle, c'est alors est-ce que c'était un rêve, est-ce que c'était la réalité? Et les réponses sont très 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 variées, et c'est plutôt quelque chose qu'on apprécie, ne pas fermer les portes par rapport au thème ou la compréhension générale en fait, de l'histoire.
Il y a de l'amour aussi, il y a de l'amour. Oui. Il y a de l'amour.
Pileta atterrit dans les bras d'un grand jeune homme.
Salut,
c'est Louis.
Je m'appelle Louis. Et toi, c'est Pileta, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il est beau.
Oui, il est beau. Il porte une longue gabardine sur les épaules, un béret de travers sur la tête, un long foulard autour du cou et une petite brindille entre les dents. Il a des yeux immenses.
Qui brillent comme des diamants.
Il a une bouche immense.
Avec des dents d'une blancheur éclatante. Il est fort.
Il est fort. D'ailleurs, il n'a pas du tout l'air fatigué de te porter.
Si, quand même un peu. Il était des pauses, Pilette, ça va?
On est toujours en compagnie de membres du collectif bruxellois WOW qui présentait la fiction radiophonique live Pileta Remix au Métaphone à Oigny le 15 octobre dernier.
Un troisième membre du collectif nous a rejoint. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, je suis Jonathan, je m'occupe de la technique sur le spectacle.
Et toi, comment tu es arrivé dans ce collectif? Par quel biais alors?
Alors, moi je suis arrivé dans le collectif, dans l'équipe de tournée très exactement, il y a 2 ans. Ils cherchaient quelqu'un pour reprendre le spectacle à la technique. Et du coup, ils m'ont appelé. Et voilà.
C'est un spectacle qui ne s'adresse pas qu'au jeune public. Là, aujourd'hui, ici. Au Métaphone à Oigny, il y a plusieurs séances dans la journée, 3 quand même, matin, midi et soir, on peut dire. Donc 2 séances scolaires et puis une séance tout public. Il y a un rapport différent des adultes à ce conte
Oui. En tout cas, c'est vrai que c'est, aujourd'hui, c'est 3 fois, c'est comme un médicament, quoi. C'est matin, midi et soir, entre les repas. Mais oui, je pense que... Alors, aux enfants, on parle aux enfants, ils s'amusent de la peur, la mort, tout ça. C'est des thèmes où ils sont encore à l'âge de dire « Pam, t'es mort », quoi. Donc ça, c'est cool, ils en rigolent, ils s'amusent et il y a un effet bénéfique, je crois, une peur un peu jouissive comme ça et à traiter ces sujets-là. Et je crois qu'aux adultes, ce qu'on nous a renvoyé, les adultes, parfois, c'est « Ah, ça a parlé à l'enfant qui est en moi » ou alors « Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune, on me racontait des histoires comme ça et ça m'a ramené à... Et aussi certaines personnes vraiment plus anciennes qui peuvent évoquer les dramatiques radio de l'époque où on se réunissait pour écouter une dramatique radio avant la télé. Enfin, en tout cas, ou en parallèle à la télé, avant la télé. Voilà, donc il y a vraiment, des retours différents et je pense des lectures différentes en fonction de l'âge. Et ça, c'est chouette, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on ne voulait pas faire du théâtre ciblé spécifiquement pour les enfants parce qu'en fait, on n'a jamais fait ça. Et j'ai dit théâtre, un spectacle en tout cas... ciblé spécifiquement pour les enfants parce que c'est pas... Enfin, on pense qu'il faut parler aux enfants comme à des gens normaux. Qui sont des adultes, généralement les gens normaux sont des adultes. Parce que les enfants sont bêtes quand même, plus que les adultes.
C'est arrivé d'avoir des salles remplies d'adultes qui ne croyaient pas que c'était un spectacle jeune public.
Parce oui, c'est vrai.
En fait, finalement, les thèmes abordés peuvent aussi être matures et amener une autre compréhension du même thème. Et finalement, on a l'impression et on espère que tout le monde en a pour ses goûts.
Florent, tu es l'auteur du texte, tu as un passé de travailleur social, est-ce que ça a joué? Parce que dans Beau Jeune Monstre, on sent ça, on sent, y a ce personnage Sandra qui est une personne porteuse de handicap, sur le thème de l'enfance...
Écoute, je sais pas trop. Effectivement, Beau Jeune Monstre, c'était très très autobiographique de mon parcours d'éducateur spécialisé. Ça, c'est clair. C'était vraiment la synthèse de pas mal d'expériences traversées réellement. Et donc, du coup, transcendé par la fiction, évidemment, c'était pas un documentaire. Non, c'était plus pour rigoler, je crois, d'écrire un texte jeune public. En fait, je suivais un atelier d'écriture jeune public et ce texte-là est parti d'un exercice qu'on nous a proposé. Et c'était un exercice bateau au départ, c'était écrire en une demi-page le début d'une histoire d'un personnage qui va chercher un remède miracle, enfin un remède pour sauver un être cher, un truc comme ça. Et en fait, moi, c'est la première fois que j'écrivais un peu des trucs pour enfants comme ça, et je me suis un peu pris au jeu, et j'ai pas fait une demi-page, mais 33 pages, et puis après, on s'est dit, ah tiens, on a un texte, on peut faire un truc. Mais je pense pas, en tout cas, que mon passé d'enfant joue, je pense.
Vous avez parlé des dramatiques en radio. Il y a la création radiophonique et sonore qui existe depuis un certain temps, qui n'a jamais arrêté, même si c'est cantonné à quelques plages sur quelques radios, notamment en France. Il y a aussi les livres pour enfants qui, ouais, finalement perpétuent cette tradition. Vous étiez auditeur de ce genre de choses ou on repart de zéro?
Moi, j'ai une formation dans le son. Donc moi, c'est pas moi qui ai créé le spectacle. Et j'ai repris le spectacle. Évidemment, il y a un deuxième technicien qui tourne aussi avec le spectacle. Je suis pas tout seul à faire la technique sur toutes les représentations. Il y en a beaucoup trop. Et moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, et dans mon passif aussi en formation, c'était qu'on nous sensibilisait beaucoup à utiliser des objets. Donc, comme tu as pu le voir, il y a beaucoup de bruitages en direct qui sont faits sur scène, et aussi de la reproduction d'espace, mais aussi du passage d'ambiance, que ce soit des ambiances plus de type musical ou des ambiances de type plus... enregistrés sur le terrain, donc des ambiances de foule, des acoustiques de pièces, etc. Et pour moi, tout ça va avec la dramatique radio. Et c'est un travail qui est pour moi différent du son. Aujourd'hui, à la radio, enfin, en termes de radio, on entend beaucoup de créations de podcasts qui sont des voix très très proches du micro, comme ça, où on reçoit un invité ou deux qui donnent une expertise, et puis c'est juste finalement un échange de questions. Et ici, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup tourner sur ce spectacle parce que on utilise vraiment toute la diversité du son, aussi bien en termes de musique qu'en termes de création sonore. Voilà.
En fait, il y a très clairement un lien avec le passé, si c'est aussi ça là, un peu la question. Ça existe depuis longtemps, il y a clairement un lien. Et je pense que tout le monde dans le groupe a certainement un peu regardé. Il y a des vidéos sur YouTube avec les vieilles émissions de la BBC où on voit deux, trois bruiteurs et quelques comédiens qui se partagent le micro. Et ce genre de choses, pour moi, il y a un lien avec le passé. Mais la technologie ayant beaucoup évolué et que... Par exemple, pour faire un montage en son, il y a 50 ans, avec des enregistreurs à charbon, c'était vraiment très compliqué, alors que nous, on peut le faire en quelques secondes. En fait, le processus de création étant plus léger, ça permet aussi de faire des expérimentations un peu neuves. Et quelque part, il y a clairement un lien avec le passé, mais aussi une sensation d'avoir un peu un continent inexploré devant nous, et qu'en fait, c'est plutôt chouette pour les gens curieux. J'invite tous les gens curieux un peu explorer d'ailleurs le sujet de la narration par le son et le texte, quoi. Il y a encore des choses intéressante à faire et à découvrir, je pense.
Et je pense qu'à nous trois, on aura peut-être répondu vraiment à ta question. Moi, personnellement, je partais un peu de zéro. J'étais pas trop un auditeur de radio. En tout cas, pas de dramatique radio et de fiction radiophonique, jusqu'à ce que je découvre l'atelier de création radiophonique sonore, l'ACSR, donc atelier de création sonore radiophonique à Bruxelles, que j'aille faire une formation, un stage, et que là on me présente des écoutes, on m'a fait écouter plein de trucs, et là je me suis dit, waouh, putain, j'ai raté tout ça. Et du coup, j'ai essayé après d'engranger, et ça fait 6 ans que j'écoute beaucoup. Par contre, il y a 6 ans, je partais de zéro, vraiment, j'étais pas du tout un auditeur de radio, enfin, j'écoutais la radio de flux qui parle, quoi, enfin, j'écoutais France Inter et France Culture, mais. Pas trop de la fiction, en tout cas, voilà.
Alors justement, comment vous voyez, parce qu'il y a une émulation, on voit par le biais d'Internet, les différentes chaînes de podcasts, il y a un public aussi, il y a des festivals, des petits festivals qui se créent à droite à gauche, d'autres qui deviennent plus gros. Comment vous voyez un peu tout ça?
Moi j'ai un petit souci, voilà, je sais pas où il se situe vraiment. Alors je sais que j'ai souvent des longs débats, je vais pas faire ça, enfin je vais pas rentrer dans le détail, parce que je sais que c'est sûrement moi qui m'exprime assez mal ou qui entend mal ce qu'on me dit dans ces débats. Alors c'est des débats qui tournent souvent au vinaigre. J'ai juste un petit souci avec ce terme générique de podcast. Voilà, je pense que c'est chouette si... le podcast permet à des gens d'écouter de la bonne création radiophonique et sonore, parce que du coup, nous, par exemple, des gens nous ont contactés pour dire « Ah, pour le festival de podcast de... est-ce que vous pouvez venir présenter Beau Jeune Monstre ?» Parce qu'on a adoré votre podcast. Ouais, mais rien n'a été fait dans Beau Jeune Monstre comme maintenant on fait un podcast. Enfin, c'est à la base, on a fait une fiction radiophonique, et maintenant, podcast, enfin, on nous présente comme un podcast. Je me dis, si ça permet aux gens d'écouter vos jeunes monstres, tant mieux, et d'autres créations radiophoniques, tant mieux. Après, c'est un peu comme si, pour moi en tout cas, j'ai l'impression que ça peut pousser vers un nivellement par le bas, sans être méprisant du tout, hein. C'est juste dire que c'est pas le même travail parfois. Ce serait comme dire, le cinéma qui passe à la télé devient de la télé. Alors qu'en fait, non. À la base, c'est un film qui est fait pour être dans un cinéma, sur un grand écran, avec du gros son, avec des moyens de production et du temps de production très différent d'un téléfilm. Mais voilà, quand un film, un long métrage de cinéma passe à la télé, bah, ça reste un long métrage de cinéma diffusé par de la télé. Là maintenant, une longue pièce radiophonique de création radiophonique qui va être diffusée sur Internet devient un podcast. Ah, pour moi, c'est pas pareil. Le podcast, en fait, je pense qu'il y a une méprise, enfin, en tout cas, il y a une incompréhension entre le format de création et la diffusion de cet objet. Enfin, c'est pas pareil. Le podcast, c'est juste un moyen de diffusion. C'est pour caster sur un iPod. C'est comme ça que le mot s'est créé. C'est iPod, cast, du coup broadcast. Comment on diffuse sur un iPod? Alors voilà, maintenant que ça devient un terme générique qui permet à des gens d'écouter de la bonne création radiophonique, tant mieux, en sachant que voilà, après il y a des choses, moi, que je trouve... quand il y a des appels à projets maintenant pour des podcasts natifs et tout ça, avec en fait des budgets dérisoires par rapport à ce que une masse de travail qui est demandée pour cet appel à projet justifierait. Il y a vraiment, c'est vraiment des tout petits budgets. Mais ça paraît des gros budgets, mais en fait, c'est des tout petits budgets. Il y a des appels à projets pour 10 000 euros pour faire 20 épisodes de 20 minutes. Je me dis, c'est pas possible. C'est comme les séries. Enfin, on peut pas aussi bien... Enfin, allez, c'est pas le même travail, j'ai l'impression. Voilà, pardon. Je suis en train de me lancer dans le débat que je voulais pas avoir. Mais
avec moi-même, en plus.
C'est un peu comme si on appelait du même nom un magazine et un livre, en fait. Et quelque part, moi, ça me pose pas tellement de problème. Et les magazines sont vraiment très chouettes aussi. Mais c'est vrai que je crois que ce qui pose problème, c'est que tout est mis tellement dans le même sac qu'en fait, en tant qu'auditeur, c'est un peu difficile de s'orienter. Et qu'effectivement, ce n'est pas la même écoute d'écouter, par exemple, un podcast de magazine où on peut un peu s'éloigner pendant 5 minutes. Une fiction radio, si on s'éloigne, c'est un peu comme passer 5 pages d'un livre. En fait, on perd un truc, quoi. Donc en fait, nous, en tant que créateurs, on aimerait bien qu'on nous écoute dans une bonne condition, ce genre de choses. Et peut-être que le terme podcast est tellement vague et vaste que peut-être qu'on loupe 2-3 personnes par-ci, par-là. Et par contre, on est quand même plutôt enthousiaste dans le fait que les gens écoutent d'eux-mêmes, choisissent leur programme, choisissent d'aller à gauche plutôt qu'à droite, écoutent des créations ou même simplement des magazines qui ne sont pas édités dans une grosse radio et avoir un truc un petit peu parallèle. Donc on est quand même content de l'explosion du média. Et on espère qu'on ne nous oubliera pas dans la foulée.
Voilà.
Florent, Thomas et Jonathan du collectif WOW, collectif qui réalise et interprète des fictions radio pour la radio ou pour la scène. On a pu voir et entendre le spectacle Piletta Remix le 15 octobre dernier au Métaphone à Wany. C'était proposé par Culture Commune, qu'on remercie au passage. Un super spectacle, à la fois une performance assez forte dans la synchronisation et l'interprétation, et puis une expérience enthousiasmante en tant que spectateur-auditeur. L'actu du collectif WOW, c'est une nouvelle fiction radio studio à paraître avec l'atelier de création sonore et radiophonique de Bruxelles. Une participation au festival de la CSR, toujours à Bruxelles, du 6 au 8 décembre prochain. Et puis l'adaptation live de la série radio Beaux Jeunes Monstres, ce serait pour 2021.
En l'attendant, tout court, tout pleure et puis tout danse autour du feu de la vengeance.
Pour le roi de la ferraille, je ne vaux pas un clou. L'amour qui tiraille me fait claquer des genoux.
C'est pas des castagnettes qui te sauveront, poulette. Va falloir que tu prennes tes jambes à ton cou.
Je pensais pas que la mort, c'était comme ça. Je pensais pas si rapide, pas si droit.
Mais tu ne sais rien encore, ma petite, c'est bien. Ta chance, profite un peu de tes vacances.
Pour le roi de la ferraille, je ne vaux pas un clou. La mort qui fait aïe me fait claquer des genoux.
C'est pas les castagnettes qui te sauveront, Pilette. Va falloir que tu prennes des jambes à ton cou.
C'est pas des castagnettes qui te sauveront, fillette. Va falloir que tu prennes tes jambes à ton cou.